est-il raisonnable de se mettre en telle peine pour 5 jours ? Disait la comtesse de Poitiers. Le roi surgit de derrière une colonne qui avait masqué son approche. « Bonjour, mes filles, » dit-il. Les jeunes gens se turent brusquement. Le beau garçon salua très bas et s'écarta d'un pas, gardant les yeux à terre. Les deux jeunes femmes, après qu'elles eurent fléchi le genou, demeurèrent muettes, rougissantes, un peu embarrassées. Ils avaient l'air tous trois pris en faute. « Eh bien, mes filles, » demanda le roi, « ne dirait-on pas que je suis de trop dans votre babil ? Que comptiez-vous donc ?» Il n'était nullement surpris de cet accueil, car il avait accoutumé de voir les gens, et même ses familiers ou ses plus proches parents, intimidés par sa présence. Une sorte de mur de glace le séparait d'autrui. Il ne s'en étonnait plus, mais s'en affligeait. Il croyait faire tout le nécessaire pour se rendre avenant et aimable. Ce fut la jeune Blanche qui reprit le plus rapidement assurance. « Il faut nous pardonner, sire, » dit-elle, « mais nos paroles ne sont guère aisées à vous répéter. » « Pourquoi cela ?» « C'est que nous disions du mal de vous. »« En vérité ?» dit Philippe le Bel, ne sachant comment il devait entendre la plaisanterie. Il arrêta son regard sur le jeune homme qui demeurait en retrait et, le désignant du menton, « Qui est ce damoiseau ? » demanda-t-il. « Messire Philippe d'Aunay, écuyer de notre oncle Valois, » répondit la comtesse de Poitiers. Le jeune homme salua de nouveau. « N'avez-vous pas un frère ? » dit le roi, s'adressant à l'écuyer.
« Oui, sire, un frère qui est à Monseigneur de Poitiers, » répondit le jeune d'Aunay, rougissant et la voix mal assurée.
« C'est cela. Je vous confonds toujours, » dit le souverain. Puis, revenant à Blanche, « Alors, quel mal disiez-vous de moi, ma fille ?»«
Jeanne et moi étions d'accord pour vous en vouloir beaucoup, sire mon père, car voici 5 nuits de suite que nos maris ne nous sont point de service, tant vous les retenez tard aux séances du conseil, ou les envoyez loin pour les affaires du royaume. »
« mes filles, ce ne sont point paroles à prononcer tout haut, » dit le roi. Il était pudique de nature, et on le disait observer une stricte chasteté depuis 9 ans qu'il était veuf. Mais il semblait qu'il ne pût sévir contre Blanche. La vivacité de celle-ci, sa gaieté, son audace à tout dire, le désarmait. Il était à la fois amusé et choqué. Il sourit, ce qui ne lui arrivait pas une fois par mois. « Et la troisième, que dit-elle » ajouta-t-il. Par la troisième, il entendait Marguerite de Bourgogne, cousine de Jeanne et de Blanche, et mariée à l'héritier du trône, Louis, roi de Navarre.
« Marguerite ? » s'écria Blanche. « Elle s'enferme, elle fait son œil noir, et elle dit que vous êtes aussi méchant que vous êtes beau. »
Cette fois encore, le roi resta un peu indécis, comme s'il s'interrogeait sur la manière de prendre ce dernier trait. Mais le regard de Blanche était si limpide, si candide. Elle était la seule personne qui osa lui parler d'un tel ton et qui ne trembla pas en sa présence. « Eh bien, rassurez Marguerite, et rassurez-vous, Blanche. Mes fils Louis et Charles pourront vous tenir compagnie ce soir. Aujourd'hui est une bonne journée pour le royaume, » dit Philippe le Bel. « Il n'y aura pas conseil ce soir. Quant à votre époux, Jeanne, qui est allé loin à Dole et à Salins pour veiller aux affaires de votre comté, je ne pense pas qu'il demeure encore absent plus d'une semaine. »
« Alors, je m'apprête à fêter son retour, » dit Jeanne en courbant son beau cou.
C'était pour le roi Philippe une très longue conversation que celle qu'il venait de tenir. Il tourna les talons brusquement sans dire adieu et gagna le grand escalier qui menait à ses appartements.
« Dieu soit loué, » dit Blanche, la main sur la poitrine, en le regardant disparaître. « Nous l'avons échappé belle. »«
J'ai cru défaillir de peur, » dit Jeanne. Philippe d'Aunay était rouge jusqu'aux cheveux, non plus de confusion à présent, mais de colère.
« Grand merci, » dit-il sèchement à Blanche. « Ce sont choses agréables à entendre que celles que vous avez dites. »« Et que vouliez-vous que je fisse ?» s'écria Blanche. « Avez-vous trouvé mieux, vous ? Vous êtes resté court et tout bredouillant. Il nous arrive sus sans qu'on l'ait vu. Il a l'oreille la plus fine du royaume. Si jamais il a surpris nos propos, c'était bien la seule façon de lui donner le change. Et plutôt que de récriminer encore Philippe, vous feriez mieux de me féliciter. »
« Ne recommencez point, » dit Jeanne. « Marchons, rapprochons-nous des boutiques. Quittons cet air de complot. » Ils avancèrent, répondant au salut dont on les honorait.
« Messire, » reprit Jeanne à mi-voix, « je vous ferai remarquer que c'est vous, par votre sotte jalousie, qui êtes cause de cette alarme. Si vous ne vous étiez pas mis si fort à vous plaindre à propos de Marguerite, nous n'eussions point couru le risque que le roi en entendît trop. »
Philippe d'Aunay garda la mine sombre.
« En vérité, » dit Blanche, « votre frère est plus agréable que vous. »«
C'est sans doute qu'il est mieux traité, Et j'en suis heureux pour lui, répondit le jeune homme. En effet, je suis un bien grand sot de me laisser humilier par une femme qui me traite en valet, m'appelle dans son lit quand l'envie lui en prend, m'éloigne quand l'envie lui passe, me laisse des jours sans me donner signe de vie, et qui feint de ne pas me reconnaître quand elle me croise. Quel jeu joue-t-elle à la parfum ?
Philippe Daunet, écuyer de Monseigneur de Valois, était depuis 4 ans l'amant de Marguerite de Bourgogne, l'aînée des belles-filles de Philippe le Bel. S'il osait en parler de la sorte devant Blanche de Bourgogne, épouse de Charles de France, c'était parce que Blanche se trouvait être la maîtresse de son frère, Gauthier Daunet, écuyer du comte de Poitiers. Et s'il pouvait s'en ouvrir devant Jeanne de Bourgogne, comtesse de Poitiers, c'était parce que celle-ci, bien qu'elle ne fût encore la maîtresse de personne, favorisait pourtant, moitié par faiblesse, moitié par amusement, l'intrigue des deux autres brues royales, combinait les rendez-vous, facilitait les rencontres. Ainsi, en cet avant-printemps 1314, le jour même où l'on allait juger les Templiers et où cette grave affaire était le principal souci de la couronne, deux fils de France, l'aîné Louis et le puîné Charles, portaient les cornes par la grâce de deux écuyers appartenant l'un à la maison de leur oncle, l'autre à la maison de leur frère, et ceci sous la garde de leur belle-sœur Jeanne, épouse constante mais entremetteuse bénévole, qui prenait un trouble plaisir à vivre les amours d'autrui.